Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Sylvie Provost, Lisa et Marine Bonnemère qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcasts. C'est important pour nous car, comme vous le savez, Le Coin du Crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Comme beaucoup de jeunes filles, Junko Furuta mène une vie d'adolescente classique. Elle fréquente le lycée, sort avec ses amis et projette de devenir chanteuse. Mais en janvier 1989, quand son corps partiellement carbonisé et massacré est retrouvé par les autorités, la société Nippon ignore qu'elle s'apprête à ouvrir une fenêtre sur l'horreur, dans son état le plus vil, le plus cruel, le plus barbare et le plus effrayant. Je vous invite à bien vous accrocher pour suivre avec moi le déroulement de cette terrible affaire qui n'a pas cessé de faire couler de l'encre dans ce Japon pourtant si lisse, si parfait et si attaché à ses codes sociétaux au point de produire parfois des monstres. Avertissement. Nous nous efforçons toujours de vous rapporter les faits dans leur intégralité et tels qu'ils se sont déroulés. Pour ce fait, certains éléments risquent de heurter fortement la sensibilité des lecteurs. Il est donc conseillé à un public avisé, âme sensible, s'abstenir. Misato, préfecture de Saitama, 1988. Oma, maman, est toujours la première levée et la dernière couchée à la maison. Son train-train commence à 4h du matin, quand dans son pas feutré de souris, elle se déplace de son matelas à la salle de bain, puis à la cuisine. Il lui faut préparer quotidiennement 3 bento, des boîtes à repas. Un pour papa, un pour Ryotaro et un pour Junko. Le bento de papa est une simple boîte métallique sans ornement, grise en 3 étages, superposée avec un contenant pour le riz gluant, un pour le plat de résistance, un autre pour l'omelette aux algues et la salade de pommes de terre. Celle de Ryotaro est à l'effigie du manga populaire du moment, Jinja Nagareboshi Jin. Oma, munie d'un emporte-pièce en forme d'ourson, commence à détailler des figurines dans du pâté qu'elle grille par la suite légèrement dans une poêle pour lui donner du croustillant. Taro n'aime pas trop le riz que la maman remplace par des nouilles. En guise de dessert, elle glisse une pomme et des Smarties. Pour Junko, qui vit actuellement sa période végétarienne, rien que des mets à base de légumes et de tofu grillés. Elle a lu dernièrement dans un magazine que les œufs donnent de l'acné et que le lait de vache est un véritable poison. Depuis, impossible de lui faire avaler le moindre repas à base de protéines animales. Les boîtes prêtes et encore chaudes sont soigneusement enveloppées dans des serviettes propres et placées dans des sacs thermiques assez étanches pour trouver le repas frais sur les coups de 12h30. Oma n'a pas encore fini, à peine les 3 repas emballés qu'elle passe directement à l'élaboration du petit déjeuner. Vers 6h, le père et les enfants se séparent sur le trottoir pour prendre le chemin de l'usine, de l'école et du lycée. Papa est récupéré par le bus de son usine, Ryotaro est rejoint en route par un camarade et Junko prend le train navette pour se rendre à son lycée à environ 20 minutes de chez elle. Seul Oma demeure à la maison. Le fait de préparer successivement 4 repas de suite lui a ôté l'appétit. Alors elle se verse une tasse de thé vert qu'elle a fait infuser au réveil. Il est parfait. Maintenant, elle passe au ménage. Dans 1 heure, elle ira faire les courses. Le soir, avec un dîner réconfortant, elle attendra dignement le retour de son homme et de ses 2 enfants. Elle s'affaira autour de la table basse, attentive aux besoins de chacun, allant et venant à la cuisine avec des couverts, des bols, des canettes de bière, des verres de lait, des baguettes, des portions supplémentaires de riz, oubliant entre-temps de manger. Non, Pour elle, ce n'est pas une corvée, juste son devoir de maman et d'épouse japonaise. Aux femmes de la génération d'Oma, on a répété qu'une maison, un mari qui ramène une paye à chaque fin de mois et des enfants, valent de l'or et surpassent n'importe quelle carrière professionnelle aussi brillante soit-elle. Alors, elle a dû abandonner ses études pour épouser papa, pour ne pas manquer son train, sa chance. Les années passent vite et celles qui restent sur le carreau sont dénigrées par leur famille. Oma s'est mariée à 19 ans, un mariage d'amour, dit-elle. Papa était jeune aussi, technicien opérateur dans une usine de pièces automobiles et destiné à monter les échelons. Junko est arrivé un an et demi après leur union, suivi 6 ans plus tard par Yotaro. Le bonheur d'Oma était assuré. Sa sœur cadette, qui est devenue secrétaire de direction, passée 24 ans, a dû avoir recours à l'entremetteuse du village pour lui dégoter ce vieux chat de Hanato Miyazaki, chauffeur de taxi, déjà père de 3 enfants et divorcé. « Un bon parti, c'est lui ou rien », a dit la marieuse avec aplomb. La sœur d'Oma l'a accepté, malgré le fait qu'il boit comme un trou et se sert régulièrement dans son porte-monnaie quand il n'a plus d'argent, c'est-à-dire 25 jours par mois. « Voilà où ça mène les carrières, à des mariages de seconde main avec des ratés », pense Oma, pouffant de rire, en se souvenant que Hanato était arrivé complètement ivre et en retard à son mariage, que ses enfants ont fait un tapage et volé des gâteaux, et que sa sœur s'est évanouie à cause des ventilateurs tombés subitement en panne en pleine canicule. Dans le feu de l'action, le marié a même tenté d'embrasser la mariée à pleine bouche devant l'une des grands-mères. Cela a fait scandale. Les convives ont eu de quoi cancaner pour au moins 3 générations. Lycée Yachio Minami, 17h. La longue journée de classe vient de se terminer. Avant de quitter leur banc, les élèves se lèvent pour saluer révérencieusement leur professeur d'arithmétique, Monsieur Masato, que tout le monde surnomme Fuji-san, car son crâne rose a une forme conique qui rappelle le célèbre mont au coucher du soleil. Junko Furuta range soigneusement ses affaires dans son sac à dos. Dans une heure, elle doit reprendre du service dans la supérette de Monsieur Park, un job à mi-temps qu'elle a décroché peu avant les vacances d'été. Sur le trajet du retour, ses 2 meilleures amies qui ont fait un bout de chemin avec elle s'en vont et Junko marche toute seule jusqu'à la gare pour prendre son train navette. Les premières fraîcheurs automnales ont cédé la place à la chaleur torride et humide de l'été et quelques gouttelettes de pluie se mettent à tomber, transformées bientôt en averses. Avec sa silhouette gracieuse, son visage en forme de cœur, ses yeux noirs fondus, ses cheveux relâchés sur les épaules et son uniforme de jeune première, l'aînée de la famille Furuta ne peut s'empêcher d'attirer les regards. Nous allons faire connaissance avec elle. Junko est née à Misato, préfecture de Saitama, le 18 janvier 1971. Elle est décrite comme une jeune fille très studieuse, responsable et perfectionniste. Le foyer des Furuta est très aimant et l'adolescente est très attachée à ses parents et son petit frère, Ryotaro. Depuis son enfance, Junko a la fibre sportive et il n'y a pas un tournoi où elle n'a pas participé. À l'école, tous ses professeurs chantent ses louanges et elle est citée en exemple lors des délibérations et les remises de prix. Loin de s'endormir sur ses lauriers, Junko continue d'exceller sans pour autant chercher à écraser les autres. Consciente que sa famille a des difficultés financières et que le salaire de papa n'est pas toujours suffisant pour couvrir les extras, elle décide de travailler pour les aider. D'abord 2 fois par semaine dans une usine de moulage de plastique, et puis, depuis l'été, chez Monsieur Park, détaillant d'électroménager d'origine coréenne. Junko cultive aussi le rêve de faire carrière dans la chanson pour Idols, un style musical très populaire au Japon, axé essentiellement sur l'image virginale de l'éternelle femme-enfant des interprètes scéniques. Leurs costumes et leur maquillage rappellent le monde des mangas. L'attitude réservée et posée de cette adolescente modèle, son conformisme, son sérieux, n'attirent pourtant pas toujours de la sympathie. Au lycée, certaines filles en viennent même à la jalouser, la jugeant trop distante, prétentieuse et arrogante. Et puis, il y a les garçons. Ceux qui tentent de l'aborder sont rapidement éconduits, tout simplement parce qu'elle les trouve immatures pour la plupart et qu'elle est beaucoup trop concentrée sur ses études et son bien-être pour des aventures sans lendemain. Alors que plus de la moitié des élèves du lycée fument, boivent de l'alcool et consomment régulièrement de la drogue, Junko sort encore une fois du lot, restant le plus éloigné possible de toutes ses addictions, alors en plein essor dans les établissements japonais. Elle veut faire son intéressante. Elle pense qu'elle est trop bien pour nous. Pour qui elle se prend cette pimbèche? On dirait une mémé. Les critiques sont acerbes. Elle sait qu'on parle dans son dos, mais ne fait pas attention aux médisances. La gare n'est plus qu'à quelques mètres. Junko hâte le pas, son sac sur la tête pour se protéger de la pluie. Soudain, une ombre vient la couvrir. Le parapluie de quelqu'un marchant juste derrière son dos. Elle sursaute. C'est Hiroshi Miyano, un garçon de son lycée. « Hiroshi, mais qu'est-ce que tu fais là ? » demande-t-elle en rougissant. « J'ai vu que tu n'avais pas de parapluie, alors je t'offre le mien. »« Non merci, sans façon. Excuse-moi, je dois rentrer, mon travail m'attend. »« Mon travail, la barbe. Pas moyen de te parler une seconde ? Non, Hiroshi, je n'en ai pas envie. Inutile de m'accompagner. Junko se fond dans la foule des navetteurs en direction de la gare sans un regard pour lui. Hiroshi reste là pendant un moment, n'ayant cure de la pluie qui a trempé ses baskets et son jean. D'un geste rageux, il envoie balader son parapluie sur le trottoir avant d'aller s'abriter derrière un mur un peu à l'écart. Piétinant les mauvaises herbes, très remontées, il sort un joint de son sac à dos et l'allume. Adossé au mur, il tire une longue bouffée et sent ses nerfs qui commencent à se détendre. Cela fait plusieurs mois qu'il poursuit de ses assiduités cette jeune fille mystérieuse, sans réussir à accrocher son regard. Plus Junko se montre désintéressé et insaisissable, et plus Hiroshi se montre insistant, harcelant, pressant. Jamais encore une fille ne lui a résisté avec un tel aplomb. Jamais encore une fille lui a dit clairement qu'elle ne voulait pas sortir avec lui. Cela ne se fait pas, et les japonaises sont éduquées très tôt à ne jamais dire le fond de leurs pensées, surtout pas à la gente masculine. Et c'est tout naturellement que le non catégorique de Junko a été pris pour un oui masqué et hésitant par Hiroshi. Presque comme une invitation à tenter la chose une seconde fois. Alors, en bon garçon macho, il a persévéré, la suivant de loin sur le trajet du retour, essayant d'engager la conversation, la tirant par la manche, multipliant les invitations à aller dîner, prendre un verre, chanter au karaoké, sans succès. « Laisse tomber, elle est tarée et froide comme un glaçon, cette nana !» lui dit une fois un copain, moqueur. Hiroshi lui a donné un coup de poing. « Ta gueule, tu ne sais rien d'elle, connard !» Le narcotique ayant fait son effet, Hiroshi rajuste sa tenue, jette son joint dans une flaque d'eau et s'en va. « Bonsoir Park-san, veuillez m'excuser, je suis un peu en retard. »«
Oh non, 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 tout va bien. Mais tu es toute trempée, tu as oublié ton parapluie ?»
La supérette de Monsieur Park est située à seulement 10 minutes de marche de la maison des Furuta. Avec ses lumières blafardes, ses murs gris couverts de posters paysagistes, son décor un peu kitsch, elle ressemble à tous ces petits commerces de proximité de cette époque. Dans les rayons s'amoncellent les boîtes de thé, les nouilles instantanées, les biscuits fourrés, les paquets de chips, du petit électroménager, des mitaines anti-UV, de la crème anti-rides, des cure-dents, de la soupe miso, de la lessive et de la cire à parquet. À l'entrée, un vieux distributeur à boissons avoisine les rayons de cigarettes, de magazines et mots fléchés.
« Tu as passé une bonne journée à l'école ?»«
Oui, Park-san, très bien. Je file au vestiaire, poser mon sac et je reviens. »
Depuis le premier jour où elle est entrée en service, Junko s'est sentie comme à la maison. Non pas qu'elle aime cette supérette encombrée et poussiéreuse, mais parce que son patron est la bienveillance personnifiée. Ki-moon Park, quinquagénaire coréen, vit au Japon depuis une vingtaine d'années. Son accent de Séoul, reconnaissable tout de suite, ne l'a jamais quitté. Mesurant à peine 1m52, constamment vêtu d'un gilet sombre, d'une chemise cravate et d'un tablier par-dessus, il est d'un naturel besogneux et discret, toujours affairé derrière son comptoir, toujours à remplir des bons de commande quand il n'est pas au téléphone avec son fils qui vit aux États-Unis. Lui et Junko ont développé une relation amicale empreinte de bons sentiments, loin de la classique hiérarchie du patron slash subordonné. D'abord intimidé par l'adolescente, Monsieur Park s'est peu à peu fait à sa présence et vice-versa. À présent, ils peuvent converser librement, à la manière de deux bons vieux amis. Le commerçant aime beaucoup rire, et quand cela se produit en racontant une blague coréenne maladroitement traduite en japonais, toute sa petite physionomie est secouée de spasmes et ses yeux clignotent derrière les gros verres de ses lunettes. Junko, d'habitude si sérieuse, rit aussi de bon cœur, faisant fi des erreurs grammaticales de son adorable patron. Les journées d'automne commencent à se raccourcir, et le soir arrive bien vite. Junko est occupé à étiqueter des boîtes de conserve avec une machine à bande adhésive, tandis que son patron prend le relais en servant les clients. Une bande de jeunes, encore vêtus de leurs uniformes d'école, entrent et vont se servir directement dans le distributeur de boissons. Une grand-mère en imperméable, son petit chien sous le bras, vient refaire son stock de croquettes. Elle discute avec Monsieur Park qui lui donne l'adresse d'un nouveau vétérinaire. La pluie recommence à tomber et cette fois à bâton rompu. Junko lève un moment la tête et laisse tomber par terre le bocal de choux saumuré qu'elle avait à la main. Derrière la fenêtre en face se tient Hiroshi, le visage dégoulinant de pluie, qui la fixe avec insistance.
« Quelque chose ne va pas, Junko ?»
demande Monsieur Park depuis son comptoir. La jeune fille commence à bredouiller.
« Je vais ramasser, Park-san, je vais nettoyer, je suis vraiment navré. »
Son patron lui fait signe que ce n'est pas grave, et s'accroupit lui-même pour ôter délicatement des morceaux de verre afin qu'elle ne marche pas dessus.
« Je pense que tu es fatigué, Junko. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de cela. »
Luttant contre la peur qui la tenaille à présent, l'adolescente évite de regarder la fenêtre où Hiroshi ne semble pas vouloir bouger, l'enveloppant du regard sans ciller, sa bouche crispée dans un rictus. Junko voulait dire quelque chose, mais les mots restent bloqués dans sa gorge. Il l'a donc suivi jusqu'ici, À présent, il sait où elle travaille. Il attend qu'elle sorte pour continuer son manège interrompu de tout à l'heure. Impossible, je n'ai pas encore fini, je dois terminer de ranger le... Ignorant le véritable objet de son trouble, son patron lui met une main sur l'épaule, tellement bienveillante qu'elle eut envie de pleurer. « Je t'assure que tout va bien, Junko. C'est des choses qui arrivent. Je t'attends après-demain à la même heure. Tu peux rentrer, petite. » Quelle bonne excuse pouvait-elle trouver pour rester jusqu'à la fermeture ? Simuler un mal de ventre, une envie de vomir, qu'elle a perdu les clés de la maison et que ses parents sont à l'autre bout du pays ? Elle franchit le seuil de la porte, le cœur battant, le parapluie prêté par Monsieur Park sur la tête. C'est une pluie chaude qui devient comme une vapeur au contact de la peau, qui rend les vêtements collants et désagréables. Les pas d'Hiroshi sur l'asphalte résonnent. Junko fait mine de ne pas le voir. Il le sait. Alors, il se met à l'appeler d'abord doucement, puis de plus en plus fort. « Junko, pourquoi tu me fais ça, hein? Pourquoi tu refuses de me parler ?»« Laisse-moi tranquille, Miyano, son nom de famille. Je n'ai rien à te dire. »« Tu vas appeler ton père, c'est ça, hein ?» dit-il en serrant les dents. « Fous-moi la paix !» Elle entend le bruit d'un véhicule et un jeu de phares. Dans sa peur, elle avait oublié qu'elle déambulait au beau milieu du chemin. Le chauffeur klaxonne puis ralentit pour être à sa hauteur. C'est l'oncle Anato Miyazaki, le mari de sa tante. Hiroshi comprend et disparaît aussitôt derrière la cloison d'une maison. « Junko, viens, je te dépose à la maison !» Soulagée, la jeune fille s'engouffre dans le taxi sans perdre une minute. La soirée déjà ratée d'Hiroshi Miyano ne fait cependant que commencer. À peine rentré chez lui, il claque la porte de sa chambre et s'affale sur son lit, sans se déchausser. « Hiroshi, tu es rentré ?» appelle sa mère d'en bas. « Oui ! Tu ne veux pas dîner ?»« Non, rentre pas dans ma chambre !» Pour tromper sa frustration, il met une cassette VHS d'un hentai, un dessin animé pornographique, et se masturbe pendant un moment. Il se roule par la suite un joint, puis un deuxième, puis un troisième, répétant la cassette en boucle, la tête embrumée et la gorge sèche d'avoir trop fumé. L'héroïne du dessin animé, une lycéenne en soquette et à la poitrine généreuse, fait les yeux doux à son professeur qui finit par lui succomber. Hiroshi s'imagine à la place du prof et Junko à la place de la lycéenne, faisant l'amour dans les cabinets de toilettes en laissant couler la chasse d'eau pour masquer les bruits de leurs ébats. À cette seule pensée, il sent monter une grande excitation sexuelle. Âgé de 18 ans, Hiroshi a toujours été un enfant perturbé depuis l'école primaire. Son comportement violent et turbulent lui a valu des avertissements à répétition sans que cela le dissuade de recommencer. Une fois, il a même vandalisé et détruit du matériel scolaire, suscitant un grand scandale et couvrant de honte ses parents, contraints de réparer financièrement les dégâts pour essuyer l'affront. Hiroshi s'inscrit dans un lycée privé de Tokyo en avril 1986. Il a continué à être un élève dissipé, bagarreur et violent, ne s'illustrant ni par ses notes ni par son assiduité. C'est à cette époque qu'il se met à boire et à consommer régulièrement de la drogue. Il finit par abandonner son cursus sans décrocher aucun diplôme et retourne chez ses parents, passant ses journées cloîtrées dans sa chambre à fumer du cannabis. Mais il étouffe à Misato et retourne s'installer à Adachi, un quartier de Tokyo. Il vit alors avec sa petite amie dans l'appartement de cette dernière. La jeune fille est la sœur aînée d'un ami, un certain Yasushi Watanabe. Hiroshi mène pendant un moment une vie d'errance et d'oisiveté dans une société qui ne jure que par le travail et l'alignement aux codes sociétaux. Pourtant, il veut vraiment épouser sa petite amie. Pour économiser de l'argent destiné à financer le futur événement, il occupe un emploi de carreleur. Il annonce la nouvelle à son père qui le congratule, pensant qu'il a finalement recouvert la raison. Mais le travail éreintant et le faible salaire font que Hiroshi Miyano finit par se démotiver, comme à toutes les choses qu'il a essayées auparavant. Il quitte son boulot et rejoint une petite bande de malfrats subordonnés d'un gang de Yakuza. Hiroshi est fasciné par ces hommes tatoués, portant des costards noirs made in Italy et circulant dans des limousines aux fenêtres fumées. Des hors-la-loi que même les chefs d'entreprise respectent et invitent à leur table et qui peuvent avoir toutes les filles qu'ils veulent. On ne dit pas non à un Yakuza sous peine de mort. Hiroshi rêve de devenir un jour l'un d'eux. Cela serait un vrai pied de nez à toute la société bien-pensante, à ses parents pudibonds et à toutes les personnes qui l'ont écarté. En attendant, sa vie dissolue, son caractère irascible et imprévisible l'éloigne de plus en plus de sa fiancée. Lassée de ce garçon égocentrique et violent, la jeune fille le met à la porte malgré ses menaces de se venger pour cet affront. « Personne ne me quitte, moi! Tu perds rien pour attendre !» Retour à la case départ, à Misato, chez sa mère. Il repasse ses examens et réintègre la classe de terminale au lycée. C'est là qu'il la voit. Elle est différente de toutes les autres, tellement pure et inaccessible qu'on aurait dit une déesse enchantée. Les mauvaises langues disent qu'elle est coincée, encore vierge, et que pour elle, il est hors de question de s'engager avec quelqu'un tant qu'elle n'a pas terminé ses études supérieures. Il attendra. Mieux. Il lui fera sa cour. Elle succombera. Mais Junko Furuta n'aime pas Hiroshi Miyano. Elle le trouve présomptueux, arrogant, puéril et évite de croiser son regard.
Il la dégoûte, tout simplement. Loin de se déclarer vaincu, Hiroshi, de son côté, tente l'approche épistolaire. Il laisse un billet dans son casier avant de quitter la classe. Ce soir, 20h au karaoké. Junko, désinvolte, a déchiré le papier en petits morceaux avant de le jeter dans la benne à ordures. Observé de loin par l'auteur de ces mots, cramoisi, le cœur déjà brisé. Persuadé d'être un jour un yakuza craint et respecté, Hiroshi s'entoure d'une bande de garçons où il devient rapidement le chef attitré. Ses amis sont Joe Ogura, Noharu Minato et Yasushi Watanabe, dont la sœur était déjà en couple avec Hiroshi. Au sein de ce clan, les garçons se font appeler respectivement A, B, C et D. Les quatre garçons s'adonnent à la petite délinquance, mais aussi à des affaires plus sombres et isolées de viol. D'ailleurs, rapidement étouffées, car jamais une de leurs victimes n'a osé porter plainte contre eux. Cela leur confère un sentiment de surpuissance, surtout Hiroshi, qui, pour la première fois, se sent valorisé au sein d'une structure. C'est pendant une nuit de beuverie qu'Hiroshi commence à s'épancher et évoque Junko, l'objet de ses désirs. Ses amis le dissuadent de continuer à la harceler, mais lui n'en démord pas. Ce sera elle, et pas une autre. Et si elle ne veut pas de lui tout de suite, elle finira tôt ou tard par l'aimer. Les tentatives avortées pour la persuader de sortir avec lui le mettent en rage. La frustration et la colère sont un mélange d'étonnant aux dégâts dangereux. Et puis, un soir, nous sommes le 25 novembre 1988, il est environ 20h30, Junko quitte la supérette dans laquelle elle travaille à mi-temps. Elle se sent heureuse, Monsieur Park lui a fait une proposition intéressante. Il lui a promis un contrat à durée indéterminée et une augmentation de salaire dès la fin de l'année. Elle a dû se retenir pour ne pas lui tomber dans les bras, ce genre d'effusion n'étant pas permis au Japon. À la place, elle a fait deux larges révérences empreintes de respect et de gratitude. Les yeux de son patron brillaient de joie. Pédalant allègrement sur son vélo, Junko hume l'air frais du soir, l'âme légère et sereine. Elle a hâte de rentrer pour regarder l'épisode de sa série préférée. Oma l'attend aussi avec son plat favori, des koroké, des croquettes de pommes de terre à la viande. C'est à ce moment qu'un homme en scooter, sorti de nulle part, la percute. Loin de s'arrêter pour voir si la fille va bien, il prend aussitôt la fuite. À part une petite égratignure à la main et à la jambe, Junko n'est pas blessée. Mais le choc d'avoir fait un accident la bouleverse. Et là, surgit de l'ombre comme un vaillant chevalier, Hiroshi Miyano. Il accourt vers Junko, lui demande si elle va bien, propose de la raccompagner chez elle. La jeune fille, la mine défaite et encore chamboulée par ce qui vient de lui arriver, accepte sans discuter et sans trop se poser de questions. Elle ne sait pas que sa vie est sur le point de basculer à ce moment-là. Sur le chemin, Junko se met à boiter. Hiroshi, toujours aussi prévenant, vient lui tenir doucement le bras. Elle ne le repousse pas. Pendant un moment, il songe à revenir sur ce qu'il compte faire. Mais la machine est déjà lancée. Il ne peut plus faire marche arrière. Tout a été décidé il y a deux jours, dans l'appartement d'Adachi du copain de Miyano, Nobuharu Minato, que tout le monde appelle Shinji. Après avoir fumé plusieurs joints et s'être saoulé à la bière, les deux compères ont établi leur plan macabre. Minato prendra son scooter et guettera Junko à la sortie de la supérette. Il foncera sur elle en veillant à ne pas causer trop de dégâts et prendra la fuite. Hiroshi prendra le relais en venant lui porter secours. Et la suite ? Eh bien, au lieu de l'emmener à la maison, Hiroshi traîne Junko de force dans un entrepôt délabré. L'adolescente commence à s'agiter et à prendre peur.
Hiroshi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne devais pas m'accompagner à la maison ?
Silence, pas un mot. Il lui explique qu'il fait partie de la mafia Yakuza et qu'au moindre geste, il la tuera. Pour faire plus d'effet, il brandit un couteau à la lame brillante qu'il commence à lui agiter sous le nez, puis autour du cou, simulant une décapitation. Junko, tremblant et sanglotant, le supplie de ne pas faire ça. Hiroshi se passe la langue sur ses lèvres sèches et laisse apparaître un sourire mauvais aux gencives noircies par le tabac. Il commence à lui tirer ses vêtements. Junko tente de se protéger, lui attrape la main pour l'arrêter. Hiroshi, au comble de l'excitation et de la colère, lui place le couteau sur la gorge. « Arrête, je ne rigole plus. Au moindre geste, je te découpe sec. T'as compris ?» Il lui abaisse la culotte, abaisse son pantalon et son caleçon et la viole dans cet endroit humide et délabré. Par la suite, il la contraint à la suivre dans un hôtel malfamé situé à la sortie de la ville. Junko, choqué et terrorisé, le supplie de la laisser partir pendant tout le chemin. Mais Hiroshi reste silencieux, la tenant fermement par le bras et sortant son couteau par moments pour la menacer s'il lui vient à l'idée de se mettre à crier. La rue est déserte, seules quelques voitures passent. Junko les regarde avec envie. Tous ces gens retournent chez eux retrouver leur famille.
Alors, elle pense fortement à Oma et le plat de koroké qu'elle aurait finalement gardé au four. À papa, installé devant la télé, sirotant sa bière. À Ryotaro, absorbé par ses devoirs. À Monsieur Park, qui abaisse le rideau de la supérette pour rentrer chez lui. À un moment, Hiroshi la pousse sans ménagement à l'intérieur d'une cabine téléphonique, s'empare du combiné et compose un numéro. À l'autre bout du fil, ses copains Joe Ogura et Yasushi Watanabe écoutent le récit du guet-apens réussi de leur héros et chef. Ils lui demandent encore quelque chose, de leur garder Junko, pour qu'ils puissent la violer à leur tour. C'est vers 3h du matin que Hiroshi, sa captive et ses deux autres amis se retrouvent dans un petit parc jouxtant l'hôtel. Ils sont rejoints un moment plus tard par le faux motard, Shinji. Junko comprend enfin l'horrible machination dont elle a été victime. « Beau travail, les gars !» s'exclame Hiroshi d'un air triomphateur. Les quatre bourreaux entourent la jeune fille comme une meute de loups affamés. Leur regard lubrique, leur haleine chargée d'alcool, lui donne mal au cœur. Elle tombe à genoux et se met à vomir. « Dégoûtante !» ricane Shinji. Hiroshi, l'ancien amoureux transi, l'amant éconduit, saisit Junko par le col de sa chemise et la contraint à se mettre debout. « On sait tous où tu habites. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on enverra des gens assassiner ta famille. C'est ça que tu veux, hein ? Réponds !» Luttant contre une seconde montée de nausée, Junko agite faiblement la tête pour signifier non. Escortée par les quatre malfrats, Junko continue de marcher comme une automate, une main collée sur son estomac, l'autre tenant son côté douloureux. Elle se sent sale. Une douleur au bas-ventre lui rappelle qu'elle a perdu sa virginité lors de l'agression dans cet entrepôt. L'aube commence à pointer quand ils s'engouffrent tous les cinq dans la maison parentale de Shinji Minato. Junko est poussée dans une chambre contenant un lit avec des draps Batman et plusieurs consoles de jeux. Et tandis que Joe Ogura lui lie les mains et les pieds, Hiroshi reste debout, cigarette au bec, observant le déroulement des opérations. Il croise le regard de la malheureuse pendant un moment avant de quitter la chambre. Elle entend le verrou tourner dans la porte. Captive. Une heure plus tard, son cauchemar commence. À tour de rôle, ses geôliers lui donnent des coups de pied dans l'estomac, puis dans le dos, s'acharnant sur elle, complètement hermétique à sa souffrance et ses supplications. Dans l'après-midi, ils reviennent à la charge, la violant à tour de rôle et lui brûlant la peau avec leurs cigarettes. Les tortionnaires, soucieux de sécuriser leur antre de l'horreur, refusent l'accès de leur maison aux propriétaires, les parents de Shinji Minato, sous peine d'être tués par les Yakuza. Ils leur expliquent qu'ils détiennent avec eux la petite amie de leur fils pour parler de Junko. À présent, plus rien n'a de limite à leur folie sadique et perverse. Deux jours plus tard après sa disparition, les parents de Junko donnent l'alerte. Et la police se met à sa recherche dans toute la ville. Alors, Hiroshi prend les devants, ordonnant à la malheureuse de parler elle-même à Oma et papa, lui dictant mot à mot ce qu'elle doit leur dire. C'est la gorge nouée de sanglots que Junko compose le numéro de chez elle. Quand elle entend la voix de sa mère à l'autre bout du fil, elle est à deux doigts de craquer et de tout révéler. Mais le regard dissuadeur de Hiroshi ne la quitte pas. « Allô ? Oma ? Oma, c'est moi, Junko, Oma. Ne me cherchez pas. Oui ? Oui, j'ai fugué, je suis avec mon petit ami, nous allons nous marier. La police ne doit plus me chercher. » Bouleversée et sentant que quelque chose ne va pas, la maman la pressa de questions que Junko ignora. « Oma, promets-moi, la police, elle ne doit plus me chercher, d'accord ?» Hiroshi lui arrache le téléphone des mains et raccroche. Les sévices continuent les jours suivants, toujours plus élaborés, toujours plus atroces. La nuit, les quatre tortionnaires se réunissent pour inventer des punitions de plus en plus sadiques et extrêmes. Réduire cette pauvre Junko à l'état animal les fait jubiler de plaisir. Depuis qu'elle a été faite prisonnière dans cette chambre, attachée au barreau du lit, l'adolescente n'a rien bu ni mangé. Il lui est strictement interdit de se rendre aux toilettes. Au bout d'une semaine de détention, affamée et n'y tenant plus, elle commença à les supplier de l'alimenter. Hiroshi lui apporte de gros cafards encore vivants qu'il lui fait avaler de force. Il lui fait boire aussi sa propre urine et celle des autres garçons. Quand Junko a ses règles, on lui interdit de se changer ou de se laver. La nuit même, elle voit arriver une bande de leurs amis venus expressément pour la violer et la sodomiser. Terrorisée, violée, affamée, Junko lâche finalement prise, n'ayant plus la force de crier ou de repousser ses bourreaux. Elle perd la notion du temps et de l'espace, d'elle-même commence à avoir du mal à parler. Ont-ils eu pitié une seule fois ? Non. La voyant inerte et très affaiblie, Hiroshi et sa bande l'accrochent au plafond par les pieds et l'utilisent comme un sac de frappe pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle perde complètement connaissance. Mais ce n'est que le début de la fin. La folie meurtrière de ces monstres, couplée à leur déviance sexuelle, les fait inventer les plans les plus infâmes, les plus horribles. Les jours suivants,
et lui introduisent divers objets dans l'anus et le vagin, notamment une ampoule allumée qui lui brûle l'intérieur de son postérieur. Ils lui brûlent le clitoris avec un briquet et font couler de la cire fondue sur ses paupières. Deux jours plus tard, Shinji Minato lui arrache le téton gauche et lui introduit des épingles à nourrice dans le sein droit. Malgré toutes ses sévices, Junko se raccroche à la vie et à l'espoir de revoir un jour ses parents et l'environnement familier et serein où elle a toujours vécu. Au début du mois de décembre 1988, ses geôliers s'absentent pendant 3 jours d'affilée, la laissant toute seule dans la maison. Junko a alors l'idée d'alerter les autorités, mais est surprise par l'un des garçons, rentré à l'improviste. Il la dénonce. Ils reviennent à la charge, plus remontés que jamais. Le cauchemar de Junko connaît son paroxysme pour cette tentative d'appeler au secours, considérée comme une ultime trahison. Hiroshi réplique avec un bidon d'essence et un briquet. Il lui met le feu aux jambes et au ventre, et avec les autres, l'observe brûler au milieu des cris atroces. « Achevez-moi » supplie-t-elle. Mais ils n'en font rien. Survivant miraculeusement à ses brûlures, Junko subit plusieurs viols à répétition, avant d'être jetée toute nue sur le balcon par moins 6 degrés en plein hiver. Je vous laisse imaginer l'état physique et moral de cette pauvre fille après cette série ininterrompue de violences et de tortures. Couverte d'ecchymose, la mâchoire fendue, les yeux boursouflés, la peau infectée de plaies, les organes génitaux endommagés, elle n'a plus la capacité de contrôler ses flux naturels. Son corps tout entier dégage une odeur nauséabonde de putréfaction avancée. Une mort vivante. Hiroshi et sa bande, après avoir imaginé et exécuté sur elle les sévices les plus immondes, finissent par se désintéresser d'elle dans l'état où elle a été réduite. Ils désertent la maison pendant une journée pour aller kidnapper une lycéenne à la sortie de l'école et la violer dans un terrain vague avant de finalement l'abandonner. L'enfer de Junko prend finalement fin lors d'un dernier tour sadique concocté par ses bourreaux. Il lui propose de disputer une partie de Mahjong, un jeu de société chinois qui se joue à 4. Miraculeusement, Junko gagne la partie. La seule et amère victoire dans son calvaire qui dure à présent depuis plus de 43 jours. Hiroshi, très remonté d'avoir perdu, la roue de coups, bientôt rejoint par les autres. Il la frappe au visage et au ventre avec une barre de fer, lui brûle les yeux avec une chandelle et lui écrase les mains et les pieds avec une batte de baseball. Pour empêcher le sang et le pus de les éclabousser, il lui couvre les mains et les pieds de sacs plastiques. La voyant à nouveau inerte, il l'asperge de kérosène et allume le feu. Junko lâche son dernier soupir pendant la nuit, pendant que les 4 monstres dînent tranquillement devant la télévision. Son enfer aurait duré en tout 44 jours. Hiroshi, Miyano et les autres passent une bonne partie de la nuit à fumer des joints et sniffer de la coke, avant de finalement sombrer dans un profond sommeil. Au réveil, ils constatent l'étendue des dégâts. Junko est morte. « Il nous faut nous débarrasser d'elle !» déclare Hiroshi Miyano. Réalisant à présent ce qu'ils risquent si tout est découvert, ils enroulent le cadavre dans des couvertures puis dans un grand sac poubelle. Finalement, ils font couler du ciment dans un grand baril en métal et y jettent le sac. Le baril est conduit et abandonné dans un terrain vague. Les jours suivants, la bande se dispatche et certains commencent à éprouver des remords, surtout les plus jeunes, notamment Joe Ogura, encore mineur à l'époque des faits. Hiroshi les menace de mort si jamais l'un d'eux ouvre la bouche pour les dénoncer. Mais le 23 janvier 1989, alors que toute recherche concernant Junko a été abandonnée il y a longtemps, Hiroshi Miyano et Joe Ogura sont interpellés par les autorités dans le cadre d'une enquête concernant un viol. La lycéenne qu'ils ont kidnappée et agressée sexuellement pendant que Junko était entre la vie et la mort a porté plainte contre eux et a donné leur signalisation à la police. Chose inhabituelle pour les affaires de ce genre au Japon, les investigations vont bon train. Miyano et son complice sont interrogés séparément dans les locaux de la police de l'arrondissement d'Adachi. Une perquisition de la maison des Mitano est déclarée. Sur place, les enquêteurs découvrent par pur hasard des effets personnels ayant appartenu à Junko, alors qu'ils étaient initialement venus pour le compte de l'autre affaire de viol. Les choses s'accélèrent. Par un concours d'indices, les policiers commencent à les soupçonner d'être également derrière la disparition de Junko. Pour inciter Hiroshi à passer aux aveux, les enquêteurs lui disent que Joe Ogura leur a tout raconté, et c'est tout naturellement qu'il finit par tout raconter. La nouvelle a l'effet d'une bombe. Sous la pression policière, Hiroshi leur montre l'emplacement du baril métallique rempli de ciment où repose le cadavre putréfié de Junko. Le 1er avril 1989, Hiroshi Miyano, 18 ans, Joe Ogura, 15 ans, Nobuharu Shinji Minato, 16 ans, et Yasushi Watanabe, 17 ans, sont arrêtés pour rapt, viol, organisation de malfaiteurs et meurtre. Le lendemain, les obsèques de Junko sont célébrées lors d'une cérémonie funéraire privée.
Mais la vive douleur et émotion suscitée et le récit sordide de sa torture a fait que tout le village, tous les membres et les étudiants de son lycée, son employeur, ont suivi la procession pour lui rendre un dernier hommage. La douleur générale a été ouvertement exprimée. Lors de leur procès, les quatre meurtriers ont plaidé coupables. Ils ont reçu respectivement les peines suivantes. Hiroshi Miyano a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Shinji Minato, entre 5 à 9 ans de réclusion criminelle. Yasushi Watanabe, entre 5 et 7 ans. Enfin, Joe Ogura a écopé de 8 ans de détention juvénile, car mineur au moment des faits. À l'annonce du verdict, beaucoup de gens ont exprimé leur déconfiture, le jugeant bien trop clément en comparaison avec l'horreur monstrueuse, perverse et barbare infligée à la victime, qui n'avait aucun moyen de se défendre, décédée dans d'horribles douleurs et dans des conditions inhumaines. L'autopsie de Junko Furuta a fait état de plusieurs lésions cérébrales, d'une hémorragie interne causée par une rupture de l'utérus et des brûlures au troisième degré. Le légiste a énuméré plus de 800 coups et autres sévices, dont beaucoup de blessures profondes et partiellement gangrénées. Sans compter que la victime a été violée plus de 400 fois. À cause de cela, un grand sentiment anti-américain a longtemps dominé le Japon. La plupart des gens ayant mis ceci sur le compte de l'influence de la culture américaine sur le comportement de ces jeunes. On a d'ailleurs appelé cela la maladie américaine. Longtemps étouffée dans le carcan de son pays d'origine, l'affaire de Junko Furuta commence à se faire connaître du public occidental dès la deuxième moitié des années 90, avec l'avènement d'Internet et des blogs de true crime. Outre l'horreur vécue par la jeune fille, certains experts sociétaux ont également mis l'accent sur la société japonaise, aux codes sociaux figés et obsolètes, où le mal-être des adolescents à problème est considéré comme tabou. Le Japon, connu pour ses samouraïs et ses ninjas, est devenu une société individualiste, repliée sur elle-même et ses maux profonds, donnant involontairement naissance à un nouveau type de tueur. Ces tueurs ne sont motivés ni par l'honneur ou le devoir, mais par un désir de gloire et de notoriété, et voient dans le crime une manière de se réaliser. Cette catégorie englobe souvent des jeunes de sexe masculin, profondément mécontents de la société nippone et sexuellement frustrés. Dans certains cas, ils ont été intimidés ou maltraités pendant leur enfance. Mais dans le cas des assassins de Junko, ils étaient tout simplement mus par une violence gratuite assez sordide pour leur ôter toute humanité. Les qualificatifs pour évoquer l'histoire dramatique de Junko Furuta ne manquent pas. Plus qu'une simple victime, elle a surtout été martyre. Pendant ses 44 jours de détention, de torture, de peur, de faim, d'effroi, de doute, que ressentait-elle? À quoi pensait-elle? Jusqu'à aujourd'hui, la société nippone est restée terriblement ébranlée par cette affaire. La gratuité de son crime, son déroulement et la cruauté barbare, pathologique et inhumaine de ses exécutants. Les parents de Junko ont dû endurer la tragédie de perdre leur fille de la manière la plus abjecte que l'on puisse imaginer. Pendant sa captivité, ils n'ont jamais abandonné l'espoir qu'elle serait retrouvée vivante. Mais malheureusement, leurs pires craintes se sont réalisées lorsque son corps a été découvert. Un film intitulé « Béton », sorti en 2004, a repris fidèlement l'histoire de Junko Furuta. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.